l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Olivier Chabot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire régional de la CFDT et vous animez un collectif qui œuvre à réconcilier en fait les acteurs de la transition sociale et écologique. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de transition parce que vous ne l'utilisez pas forcément, mais en tout cas à relier les questions sociales et environnementales d'un point de vue politique. Alors, comment vous avez créé ce pacte du pouvoir de vivre ?
D'abord, avant le pacte, il y a un collectif donc, qui s'est monté. À l'origine, ce sont 19 organisations, des organisations syndicales de salariés, une organisation syndicale d'étudiants, des associations d'éducation populaire, des associations environnementales, des ONG. Donc 19 organisations qui ont d'abord créé un collectif qui s'appelait les Places de la République. Donc là, je parle d'une création au niveau national, bien sûr. C'est un collectif qui s'est monté au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et des organisations qui avaient l'habitude de travailler ensemble sur des sujets et qui ont dit « c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose ». Alors ça s'est traduit par une tribune qui est parue dans les Échos et autour du vivre ensemble, autour de redonner du sens au collectif. Vous rappelez, au lendemain des attentats, il y a eu ce grand mouvement populaire hein, de rassemblement. L'idée, c'était de capitaliser sur ce que faisaient déjà les organisations en essayant de refaire du collectif. Et puis... ce collectif donc a continué à se rencontrer, à travailler, et là-dessus est arrivé le mouvement des Gilets jaunes. Et dans le cadre de ce mouvement, plusieurs choses qui sont apparues. D'abord, une forme de remise en question, voire même remise en cause de la société civile organisée, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. On se rappelle, hein, le mouvement des Gilets jaunes ne voulait pas que les syndicats soient présents, ne voulait pas que ces corps constitués, avec des visions légitimes, hein, peur d'être récupéré, peur d'une manipulation, enfin tout ça. Mais voilà, il y avait un enjeu pour ce qu'on appelle la société civile organisée. C'est vrai que ce terme de corps intermédiaire, peut-être en lui-même, c'est un problème d'ailleurs, parce qu'il s'agit bien de représenter et pas d'être intermédiaire. Hein. Mais en tout cas, voilà, les organisations se sont dit qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, le fondement même de ce mouvement, qui partait d'un problème de pouvoir d'achat, en fait. Hein, si on se rappelle, le tout début du mouvement des Gilets jaunes, c'est parti de la question du prix des carburants. Mais derrière le prix des carburants, il y avait en fait autre chose. Il y avait le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter dans les métropoles. Il faut s'éloigner pour pouvoir être propriétaire. Donc il faut, une famille, il faut que chacun ait un véhicule. Et puis il y a effectivement le prix du carburant pour aller travailler, et sans parler du temps et tout ça. Et du coup, ce collectif des Places de la République a dit « c'est pas possible, il faut qu'on parle de cette question qui va au-delà du pouvoir d'achat, qui est bien le pouvoir de vivre ». Parce que le pouvoir d'achat, ça concerne ceux qui ont les moyens d'acheter. Mais déjà, bien au-delà, il y a déjà un sujet autour de la grande pauvreté, autour de l'exclusion. Donc voilà, le pacte du pouvoir de vivre, il est né comme ça. Ce premier collectif des Places de la République qui dit il y a le grand débat qui arrive, hein, ce qui s'est mis en place dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Il faut qu'on fasse des propositions concrètes. On partage des valeurs. On a chacun des compétences plus ou moins affirmées sur... les uns l'environnement, les autres le social, les autres l'économique. On se met autour de la table, on met à plat nos différentes revendications et on construit une sorte de programme. En fait, c'est un programme politique, en fait, mais au vrai sens du terme. Pas politicien, pas coloré par un parti. C'est voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour que demain, on recrée du sens commun, on recrée du collectif, on recrée de la solidarité. Et pas de transition environnementale, pas de transition énergétique sans justice sociale. Tout est interdépendant. Donc ce pacte, il brosse un petit peu tous les sujets de la fiscalité, du logement, de la santé, de l'environnement, du fiscal. Voilà, il touche un petit peu à tous ces sujets. 66 propositions.
Donc à l'initiative de ce pacte pour le pouvoir de vivre, il y a des associations et des mouvements assez variés. On retrouve des syndicats, on retrouve la CIMAT sur la question des droits de l'homme, on retrouve la mutualité française. On retrouve des acteurs qui travaillent vraiment spécifiquement sur les questions d'environnement, comme France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, et le réseau Action Climat. On ne va pas tous les citer, mais donc aussi la Fondation Abbé Pierre et ATD Carmonde aussi, par exemple, sur les questions plus sociales. Un regroupement finalement qui, vous, en tant que syndicaliste, qui êtes habitué à travailler sur ces questions politiques et à vous regrouper sur des actions politiques, ce regroupement, il vous paraît original, inédit ?
Je ne sais pas si on peut parler d'inédit, parce que moi, le constat que je fais, les anciens, nos prédécesseurs, les militants syndicaux des années 70, ils étaient souvent engagés dans plein de mouvements associatifs, dans la mutualité, par exemple, on a parlé de la mutualité française. L'engagement mutualiste, c'était un engagement équivalent à l'engagement syndical. Et moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations, elles sont beaucoup dans la consommation, y compris même dans l'engagement syndical. Elles vont adhérer à un syndicat parce qu'on a un problème juridique. C'est pas pour autant qu'on va aller s'engager dans une association de parents d'élèves ou dans une association environnementale, dans un centre social. Et c'est vrai, c'est pour ça que je crois pas que ce soit inédit. Simplement, je crois qu'on a perdu un petit peu le sens de ce qui relevait avant de ce qu'on appelait l'éducation populaire, qui existe toujours, qui est portée par des grandes fédérations. Mais des fois, on inscrit ses enfants dans des centres de loisirs qui sont animés par des grandes fédérations d'éducation populaire et on ne se pose même pas la question de savoir ce que c'est. Moi, je me suis aperçu que dans le milieu syndical, quand nos représentants d'entreprise ont parfois à choisir des complémentaires santé pour les salariés, de très bonne foi, ils vont regarder le prix, ils vont regarder la couverture, ils ne vont pas se poser la question de savoir si derrière c'est une structure qui relève de la mutualité ou si c'est une assurance privée à but purement lucratif. Donc il y a un enjeu de redonner, de retrouver ce sens de l'engagement, ce sens de valeur et de se questionner aussi du coup sur notre avenir. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit inédit. Je pense que par rapport à l'époque, je pense que il était temps qu'on se repose ce genre de questions.
Alors cette question du pouvoir de vivre, vous parliez du bien vivre. Alors là, c'est plus Paul Ariès avec des penseurs de la décroissance, de l'écologie politique qui ont développé ces notions-là qui viennent du Brésil. Le pouvoir de vivre tel que vous l'entendez, ce serait plus lié justement à se dire, bon, il n'y a pas que le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut pour bien vivre? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre dignement? Et c'est vrai que cette question soulevée par les Gilets jaunes de se dire, on est éloigné des centres urbains, on est obligé de prendre la voiture pour aller travailler. Et en plus, on nous fait peser une éco-fiscalité en disant qu'à cause de nous, on pollue et du coup, il faut qu'on paye alors qu'on est aussi obligé de le faire pour des raisons économiques. Donc, on a l'impression d'avoir vu apparaître des gens qui étaient relativement peu politisés sur des questions liées à la politique sociale, à la politique écologique. C'est finalement une opportunité de faire se rejoindre des parties de la population peu politisées avec d'autres qui ont déjà une culture politique. Vous avez dû voir émerger ces nouvelles formes de politisation.
Bien sûr. Là, on est d'accord, le pacte, c'est un collectif d'organisations structurées avec des adhérents qui arrivent dans ces organisations sûrement de façon différente, mais qui en tout cas sont engagées, sont bien les organisations qui sont signataires et donc derrière elles, les adhérents de ces organisations. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà un gros travail à faire en interne de nos organisations. Ce terme de politique, politisation, c'est un terme qui aujourd'hui peut être connoté autour d'une certaine forme de politique, ce qu'on appelle la politique politicienne. Tout est politique, en fait. Là, l'enjeu, c'est de redonner du sens, justement, à la politique. C'est de dire... un engagement, encore une fois, syndical, il ne peut pas se désintéresser des engagements environnementaux, des engagements fiscaux. Je prends pour exemple bon, je représente une organisation syndicale, la CFDT, qui est dans ce collectif. La CFDT, il y a déjà plusieurs mois, avait lancé tout un travail interne avec des communiqués, des tracts, qui était intitulé « Réhabilitons l'impôt ». Pourquoi ? Parce que on a laissé s'installer dans l'esprit collectif le fait qu'on payait trop d'impôts, on payait trop de charges. On oublie juste que l'impôt permet de financer tout un tas de choses, qu'on ne paye pas des charges, on paye des cotisations, parce que derrière, il y a une couverture sociale. Et cette couverture sociale, encore une fois, elle dépend du mode de financement, elle dépend des moyens que l'on va mettre. Et la solidarité, elle est là. La solidarité, encore une fois, hein, ce n'est pas une nostalgie du tout de l'ancien temps, mais... j'en parlais encore tout à l'heure sur le stand avec un de nos anciens militants retraités qui passait nous voir, qui était ravi de voir ce pacte, en disant que lui, il m'expliquait qu'il avait adhéré à la CFDT dans les années 60, au moment vraiment même de la création du mouvement. Et il m'expliquait que ben voilà, il avait créé un fonds de solidarité pour permettre à des retraités de pouvoir s'engager dans des frais dentaires, des choses comme ça. C'était ça le syndicalisme. Autrefois, c'était on se met en commun, on met une casquette au milieu, on met chacun de l'argent et puis on crée un fonds de solidarité. L'assurance chômage a été créée dans cet esprit-là. Toute la protection sociale a été créée comme ça. Aujourd'hui, on se pose plus ce genre de questions. Hein, on est content si on perd son emploi d'avoir l'assurance chômage. On oublie juste la façon dont ça a été créé. L'esprit du pacte, c'est aussi de retrouver ce sens-là. C'est de se re-questionner sur ces questions-là. Et peut-être demain, l'enjeu va être clairement de se reposer la question de nouveaux droits, de nouvelles protections, de nouvelles choses que l'on va pouvoir recréer. Alors qu'aujourd'hui, l'assurance chômage est un bon exemple. On est plutôt en train d'essayer de réduire... au fur et à mesure, les droits des personnes, avec tout un tas de justifications parfois très idéologiques. Je vous passe les débats sur les assistés, sur tout ça. Voilà, l'intérêt de ce collectif, c'est ça aussi.
D'accord, oui. Alors, effectivement, sur les questions d'impôts, on l'a vu beaucoup avec l'actuel gouvernement surfer sur ce mouvement, finalement, un peu poujadiste, de dire il y a trop d'impôts, faut baisser toutes ces cotisations. Enfin, tous les bénéficiaires de ces minima sociaux, en fait, c'est eux qui pompent toutes les finances de l'État. Et en fait, quand on met au regard les différentes façons de dépenser l'argent public, on se rend compte que c'est totalement faux, qu'il y a énormément de grosses entreprises type multinationales qui touchent énormément d'argent de façon plus ou moins invisible via des contrats, finalement une sorte de corruption institutionnalisée et complètement légalisée. Et que finalement, ce discours, on peut très facilement le démonter. Et vous, donc, dans ce pacte pour le pouvoir de vivre, vous dites, cet argent public qui est collecté, c'est pas mauvais de mettre tout dans une caisse commune à partir du moment où les objectifs collectifs, les objectifs communs, finalement, desservent l'intérêt général et pas des intérêts particuliers, des intérêts privés. C'est peut-être là où il y a eu dévoiement. Et c'est pour ça, notamment, que la plupart des Français ne font plus confiance à nos hommes politiques. C'est qu'il y a eu énormément de corruption directe ou indirecte. Voilà. Moi, je dis institutionnalisée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Des Vinci, des Eiffage, etc., qui privatisent un parking qui était gratuit et qui disent à la collectivité « Mais attendez, je vais faire un portail sécurisé à proximité de la gare » et qui, finalement, arrivent à mettre dans leur contrat que s'il y a déficit, c'est la collectivité qui paye le déficit. Des choses comme ça qui sont très, très visibles un peu partout. Vous vous dites, non, au contraire, on peut réconcilier l'économie avec le social et l'écologie, notamment, par exemple, si on prend cet exemple du logement. Cette question qu'on vient de soulever sur la question de tous ces gens qui sont obligés d'aller toujours vivre plus loin parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester en centre-ville. Il y a énormément de choses à faire. Et vous avez des propositions dans votre pacte.
Oui, sur le logement, c'est effectivement le bon exemple. Encore une fois, vous l'avez compris, ce pacte associe totalement... En gros, c'est pas de justice sociale sans transition énergétique et inversement. Et surtout, on décloisonne, on arrête de travailler chacun dans son coin sur ses sujets. On travaille sur le système, en fait, une vision systémique. Si on prend l'exemple du logement, il y a un sujet. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est ce qu'on appelle la précarité énergétique. On a des logements qui sont des véritables passoires énergétiques. C'est le problème de l'isolation, c'est un vrai sujet. Sauf que cette précarité énergétique, elle touche qui ? Elle touche en particulier les plus pauvres. Et on sait que cette précarité énergétique, elle va avoir un impact sur la santé. Sauf que, comme ce sont les plus pauvres, c'est aussi eux qui n'ont pas les moyens de se soigner comme il faudrait, ne serait-ce que parce que problème, pas forcément une complémentaire santé, et en tout cas pas forcément une complémentaire santé à la hauteur de ce dont on peut avoir besoin. Typiquement, on a présenté des mesures sur le logement qui disent lançons un véritable plan Marshall, on l'a appelé comme ça, du logement digne, où on va travailler sur l'isolation des logements. Ça va avoir quel impact ? Ça va avoir un impact sur la santé, ça va avoir un impact sur l'environnement, parce que forcément, hein, quand on a une passoire énergétique, on monte le chauffage, ne serait-ce que parce qu'il fait froid. Donc ça va avoir un impact là-dessus. Mais on va aussi créer de l'économie locale. Aujourd'hui, on voit sur le tout ce qui relève de la nourriture, hein, on voit repartir cette notion de circuit court. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ça. Clairement, au niveau de l'emploi, il faut elle est là, la clé. C'est recréer de l'emploi, du circuit court, en fait, sur les questions d'emploi. Voilà, on a des mesures de ce style qui sont très concrètes et qui pourraient permettre, alors, ce qui implique une volonté des pouvoirs publics aussi de s'engager là-dedans. Mais c'est un exemple. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui vivent dans l'indifférence totale, dans des logements insalubres. L'impact sur la société est juste énorme. Voilà, pour eux en premier, bien sûr, mais plus globalement, c'est bien de l'intérêt général dont il s'agit.
Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is some. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope, everywhere just to share.
Seeds of freedom.
Alors du coup, dans le pacte du pouvoir de vivre, vous avez sur la question du logement cette promotion de la rénovation énergétique des bâtiments, des logements. Mais est-ce que vous avez une réflexion aussi sur l'urbanisation, la façon de redensifier les villes ou de permettre en tout cas de travailler vraiment sur cette question du foncier qui est aussi un frein énorme au développement des activités économiques, voilà, qui bloque aujourd'hui finalement toutes nos sociétés. On se pose quand même pas mal de questions sur toutes ces personnes qui ne pourront jamais devenir propriétaires et qui vont sans arrêt toute leur vie se sentir précarisés par le fait que s'ils ne payent pas leur loyer, ils se retrouvent à la rue. Quelles propositions concrètes vous avez sur ces questions-là ?
Les propositions concrètes, elles vont surtout être sur ce qui va permettre, encore une fois, à des gens de vivre, j'ai envie de dire, au plus près de là où ils sont. Vous savez, dans les questions d'emploi, on parle des zones d'emploi. L'INSEE détermine ce qu'on appelle des zones d'emploi, hein, ou que on va appeler également les bassins d'emploi. On est sur le territoire, là, on est sur Bordeaux. Le bassin d'emploi de Bordeaux, il va jusqu'à la côte atlantique, du côté de Carcan, Maubuisson. C'est le bassin d'emploi de Bordeaux. La définition d'un bassin d'emploi, c'est un endroit où des gens peuvent vivre et travailler. Vous vous rendez compte ce que ça peut faire que de travailler à Bordeaux et d'aller habiter sur la côte. Aujourd'hui, on le voit, hein, il y a un éloignement. Bon, c'est juste pas possible. Il y a un sujet autour d'activités sur les lieux de vie. La désertification des services publics, par exemple, en milieu rural, c'est juste catastrophique. Parce que, certes, les gens continuent à y vivre parce que c'est pas cher, ce sont des cités dortoirs, mais les services publics, c'est aussi de l'emploi. Donc les mesures, elles vont d'abord porter sur recréer de la vie. Par exemple, aujourd'hui, il y a des créations de maisons de services publics. On demande à ce que réellement, il y ait un effort particulier pour qu'elles soient installées là où il y en a là où il y a des gens qui vivent. Vous voyez, c'est ramener de l'activité. Voilà. Après, je pense que ce pacte est sorti au mois de mars dernier. Il y a déjà 66 propositions. C'est une première étape. Ça ne s'arrête pas là. Sûrement que ça passe à côté de plein d'autres sujets qui vont être des sujets de fond. Aujourd'hui, on a besoin vis-à-vis des politiques de mesures très concrètes qui peuvent être applicables rapidement de manière à pouvoir vraiment faire des leviers et lancer la machine. Voilà, les questions d'urbanisation sont des questions de fond qui prennent énormément de temps. On a des années de choix politiques à arriver à changer. Je crois qu'il faut qu'on arrive à changer les mentalités. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'on est en danger. Voilà, je pense que c'est dans un deuxième temps qu'il faudra repenser la question de l'aménagement du territoire.
Alors, pour revenir justement sur ce pacte, il a été élaboré par 19 structures au départ, aujourd'hui rejoint par d'autres structures, au total 52 structures associatives pour la plupart, ou syndicalistes, ou mutualistes. C'est un outil vraiment pour transformer les politiques publiques qui a été porté au niveau le plus haut. Vous pouvez nous raconter comment vous avez présenté ce pacte finalement au gouvernement ?
Le président de la République et le Premier ministre ont reçu les 19 organisations signataires, c'était l'été dernier, parce que il faut comprendre que l'ensemble des organisations, ensemble, c'est plusieurs millions de personnes, plusieurs millions d'adhérents. C'est important de le dire parce que là aussi, on a laissé s'installer l'idée que, vous savez, on entend souvent que les gens sont peu syndiqués, que les gens ne s'engagent plus. On est aujourd'hui sur un événement où, depuis deux jours, on voit tout un tas d'initiatives. On voit qu'il y a de l'engagement. Il y a des gens qui montent des associations, qui sont engagés dans des mouvements. Donc il y a ce poids, hein, qui est quand même un poids conséquent et qui montre bien qu'il y a, il y a encore une place pour la société civile organisée dont je parlais. Le gouvernement et le président de la République ont rencontré les membres du collectif. Le collectif a décidé de prendre certaines mesures du pacte et d'en extraire pour en faire des mesures qui concrètement pourraient être intégrées dans le budget 2020. Ça a fait l'objet d'un document qui s'appelle « Pour un budget du pacte du pouvoir de vivre ». On en est là, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été reçus, ils ont été entendus, les mesures ont été présentées.
Et alors ?
Et alors, on a fait la même démarche au niveau régional vis-à-vis du conseil régional, et on fait la même démarche au niveau des représentants des pouvoirs publics locaux. On est ici reçu par le conseil départemental de la Gironde. Le président Jean-Luc Glaise a lui-même annoncé qu'il souhaitait faire du département de la Gironde un département expérimental sur la mise en œuvre du pacte. Dont acte, on doit se voir bientôt pour voir ça, c'est-à-dire ce qu'on ne fera pas au niveau national, ben on essaiera de le faire au niveau local. Et ce qui est important, il y a des mesures de bon sens, il y a des mesures qui de toute façon pour nous, si on ne va pas sur une transformation de notre modèle, on va dans le mur. C'est l'avenir de nos enfants, c'est notre avenir à nous, et puis c'est le bien commun. C'est particulier une démocratie, et c'est particulier une république. On a des valeurs importantes qu'il ne faut pas oublier. On est en train d'atteindre, je crois, les limites d'un système économique, d'un système démocratique, d'un système politique. Je crois que la démocratie est en danger, elle est en danger permanente. Et la démocratie, ça ne se règle pas juste dans les urnes une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans en fonction des mandats. C'est au quotidien. Et a fortiori, on est en démocratie sociale. Il y a un équilibre entre la loi et le contrat. Les partenaires sociaux ont un rôle à jouer. Les associations ont un rôle à jouer. On parle régulièrement des lanceurs d'alerte. C'est aussi notre rôle. Et là, on a cette opportunité de faire collectif autour d'un projet partagé. Et on ne lâchera rien là-dessus.
Très bien. Donc, Olivier Chabot, si on veut rejoindre ce collectif autour du pacte du pouvoir de vivre pour travailler sur l'urgence sociale et écologique, comment on peut vous rejoindre en tant qu'individu ou en tant que structure associative, mutualiste, syndicaliste?
En tant que structure, le pacte, il est signé par des organisations, comme je l'ai dit. Donc, nous avons tout un tas d'organisations, d'associations qui viennent nous voir en disant on serait intéressé pour le signer. Donc ça, c'est une démarche qui est cohérente. Après, le pacte, ce n'est pas une association qui vient se rajouter à d'autres associations. C'est vraiment un collectif. Ça veut dire qu'un particulier, un individu qui souhaite rejoindre le travail du pacte, il a aujourd'hui 52 organisations signataires dans lesquelles il peut s'engager pour faire vivre le pacte. Alors en fonction de ses choix, je dirais un petit peu prioritaires, ses centres d'intérêt. Et pour la plupart, ce n'est pas incompatible. On peut être à la fois syndicaliste, engagé dans une asso environnementale, dans une association d'éducation populaire. L'enjeu, c'est quand même aussi de redonner du sens à ce type d'engagement. C'est de se re-questionner sur c'est quoi un syndicat, c'est quoi un engagement syndical, c'est quoi un engagement dans une association. Est-ce que c'est juste payer une adhésion? Est-ce que c'est juste résoudre ses propres problèmes quand on en a à un moment donné? Ou est-ce que c'est faire société? Est-ce que c'est s'engager pour le bien commun, pour l'intérêt général? Quelqu'un qui veut rejoindre le pacte, moi ce que je lui conseille, c'est de regarder la liste des signataires, de se rapprocher des organisations qui lui parlent le plus, d'aller les questionner s'il ne les connaît pas, et puis de s'engager de manière très générale. Voilà.
Ok, merci. Donc le pacte du pouvoir de vivre, on doit trouver sur Internet.
Il y a un site Internet qui s'appelle pactedupouvoirdevivre.fr, tout attaché en minuscules, sur lequel il y a le pacte, bien sûr, avec les 66 propositions, et à l'intérieur des 66 propositions, certaines qui sont très détaillées. Il y a l'agenda également, puisqu'il y a un tour de France actuellement du pacte du pouvoir de vivre, avec des événements dans plusieurs villes, la liste des signataires, tous les modes de contact qui permettront d'aller plus loin.
Merci Olivier Chabot.
Merci à vous.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.